Christelle, je crois que c'est le bon moment pour que vous nous rejoigniez, parce que vous, ces instants de grâce, vous les avez rencontrés. Votre maman, oui, venez vous asseoir avec moi, votre maman a été touchée par une forme jeune de la maladie, elle avait la cinquantaine, et vous avez découvert cette maladie, vous étiez vous-même toute jeune en fait, et vous l'avez découvert en comprenant qu'il se passait quelque chose d'anormal dans son comportement. Est-ce que vous vous souvenez des premiers signes qui vous ont mis la puce à l'oreille ?
Alors, en fait, elle a été diagnostiquée à 56 ans. Donc, je ne peux pas dater les tout premiers symptômes parce que c'est une maladie pernicieuse qui va d'abord se nicher dans les détails. Comme je ne vivais pas avec elle, j'avais quitté mes parents depuis quelques années. C'est à la suite du décès de mon père où j'ai pu mettre des petits comportements que je mettais un peu fantaisistes. Je le mettais sur le compte de sa déprime, du fait d'avoir perdu son mari. Mais c'était une femme tout à fait active, qui faisait du sport, des randonnées, qui travaillait, qui était éducatrice de jeunes enfants, donc qui s'occupait de bébés. Et en fait, on a commencé à voir, ça a commencé par des oublis d'aller à des rendez-vous. Elle me rappelait plusieurs fois pour me demander la même chose. Et puis, je suis partie en vacances avec elle pendant une semaine à Marrakech, pensant qu'on allait se reposer. Et là, à 4 heures du matin, elle faisait son lit. Et tous les matins, elle me posait la même question, qu'est-ce que je fais de la clé ? Alors, c'était bien symbolique de ce qu'allait se passer, parce qu'elle avait rapidement perdu son trousseau d'à peu près toutes les portes qu'elle pouvait rencontrer. Et tous les matins, alors, le premier matin, j'ai rigolé en étant émue, en me disant, oh, elle ne va pas souvent à l'hôtel. Puis le deuxième matin, je dis, bah, quand même. Puis le troisième matin, je lui ai carrément demandé si elle se foutait de ma figure. Quoi. C'était un autre type de réaction que j'ai eue à ce moment-là. Parce qu'on a tout à fait ce genre de rejet quand on a affaire à quelqu'un qui fait des choses qui ne vont pas dans la normalité des choses. Et puis, voilà, pour moi, il n'y avait pas d'Alzheimer. Ça ne correspondait, enfin, c'était juste impossible, c'était inconcevable. Pour moi, c'était une maladie de vieux, c'était une maladie sénile. Et puis voilà, donc ça ne pouvait pas toucher ma mère. Et quand on est rentré de ce voyage, j'ai quand même fait faire un petit bilan avec le médecin, en discutant, on a creusé. À la crèche, on s'est rendu compte qu'il se passait aussi des choses. Hein, elle mélangeait tous les gamins, toutes les chaussures, tous les soirs. C'était un capharnaüm pour que tout le monde retrouve son pied droit et son pied gauche. Elle partait avec le manteau de la directrice. Enfin, il y a eu quand même des choses, des situations qui nous ont fait rire a posteriori, voire même sur le moment. Et on a passé un bilan et le diagnostic est tombé très vite, à 56 ans. Alors, on ne nous livre pas, quand on sort du bureau du neurologue, alors je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait depuis, puisque nous, c'était en 2002, ça va faire presque 20 ans, ça me paraît fou. En tout cas, on ne nous livre pas ni de boîte à outils, ni de mode d'emploi. Voilà, ça a été une petite tape sur l'épaule.
Bon courage, madame.
Bon courage, madame. On se revoit dans 6 mois. Ma mère d'un côté, mon ordonnance de l'autre. Et qu'est-ce que je fais ? Voilà. Donc, comme Olivier de la Doucette en parlait, il faut savoir être créatif et il faut savoir se réinventer une vie à deux. Celle de la personne malade qui va apprendre sur son chemin, voilà, et sur celui de l'aidant qui doit aussi faire son propre parcours et sa propre mutation. Sa mutation d'acceptation, son deuil aussi. Hein, on parle parfois de deuil blanc, mais il faut dire les mots. On a l'avenir qu'on se faisait, enfin la projection qu'on se faisait de notre avenir se retrouve pulvérisée. Je savais déjà que ce ne serait peut-être pas la grand-mère gâteau dont j'ai rêvé, ce ne serait peut-être pas des voyages à n'en plus finir, mais c'est une autre vie. C'est une autre vie qu'on doit tous se réinventer et c'est un chemin qu'on doit faire soi-même pour apprendre à accepter et à changer.
Vous mesurez assez vite à quel point ça va bouleverser votre vie quotidienne à vous aussi ? Ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure, tout ça ?
C'est en même temps ultra lent et ultra rapide à la fois, parce qu'elle devient très dépendante, la prise de médicaments devient un casse-tête, elle se met à manger n'importe quoi dans son appartement. Je suis dans la course au maintien à domicile, parce qu'à 56 ans, il n'y a pas de structure adaptée.
Encore moins il y a 20 ans qu'aujourd'hui, et on sait qu'aujourd'hui on en manque encore cruellement.
Et puis j'étais pas prête, moi non plus. Elle n'était pas encore, voilà, elle était encore dans une certaine autonomie, mais les choses se sont dégradées assez rapidement. J'ai réussi à la maintenir, on va dire, 4-5 ans à domicile.
Alors, en organisant un balai autour d'elle,
autour d'infirmières que j'appelais les fées, parce que ça a été un quotidien, mais ça a été aussi un quotidien merveilleux. J'avais un carnet de relève où chaque jour, on se laissait des petits messages entre l'auxiliaire de vie, la dame de compagnie, les infirmières et moi. Et quand j'ai relu quelques années plus tard ce carnet, je suis repassée par toutes les émotions qui ont été parfois de la tristesse, de la colère, mais aussi d'énormes fous rires et puis des moments de grâce. Voilà, alors après, elle a transformé son appartement en biennale d'art contemporain, parce qu'elle ramassait tout ce qu'elle trouvait comme petites fleurs, comme petites feuilles, elle nous redécorait tout l'appartement. Elle faisait vraiment des grandes, grandes créations, elle était très, très dynamique, elle faisait vraiment des choses assez impressionnantes. Quand je mettais la clé dans la porte et que je rentrais, je me disais qu'est-ce que je vais trouver derrière. Voilà. Et puis malheureusement, un jour, elle n'a plus été capable d'assurer sa sécurité parce qu'elle avait tellement mis de feuilles dans toutes les appliques que tout a pris feu. Voilà. Donc on a dit là, il faut qu'on arrête. Donc
avant de prendre l'étape suivante, vous vous souvenez d'épisodes drôles, d'épisodes inquiétants et puis aussi d'épisodes magiques. J'ai en mémoire cette virée que vous avez osé mettre en place pour l'emmener voir la mer. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode?
Alors ça arrive beaucoup plus tard, hein, dans sa maladie, cette partie-là. Quand on était dans son appartement, elle avait pris, je vous le disais, les fleurs et les feuilles en amour, et elle s'était mise à jardiner. Et en fait, elle s'est mise à planter des brosses à dents dans toutes ses balconnières. Alors, ce n'est pas illogique, hein, parce qu'une brosse à dents, ça a la forme, hein, c'est la longue d'une tige, d'une fleur. Voilà, c'était sa manière à elle de réinventer la fleur. Donc évidemment, la première fois que j'ai vu ça, j'ai tout enlevé en l'engueulant, lui disant enfin maman, on ne fait pas ça, etc. Le lendemain, elles étaient revenues. Et finalement, c'est moi qui ai dû apprendre à trouver ça poétique. Et je l'ai laissé faire. Et de la voir s'occuper de son jardin de brosses à dents, finalement, c'était quelque chose d'assez joli et d'assez poétique. Alors j'ai eu j'ai moult anecdotes et de moments drôles et voilà, où elle saluait aussi Patrick Poivre d'Arvor tous les soirs à la télévision. Alors, tout le monde, Nagui aussi. Alors ça, Nagui, elle adorait le saluer. Tous les soirs, on avait droit à une discussion entre la télé et elle. Voilà, donc ça reste quand même des moments assez amusants. Il a fallu que je la place d'abord en famille d'accueil. Je ne sais pas si ça a été une bonne solution, en tout cas pour moi, qui n'était peut-être pas prête à faire le pas.
C'est transition.
Une transition. Voilà. À un moment, il a fallu quand même que ce soit une équipe pluridisciplinaire parce que les choses devenaient vraiment compliquées. Donc elle a fait plusieurs établissements en fonction de sa dégradation. J'ai rencontré des gens formidables dans les soignants, mais aussi dans les malades. Parce qu'on s'attache à tous ces personnages, il y en a des très drôles. Et voilà, il y en a qui nous font un peu peur parfois, mais qu'on apprend aussi à apprivoiser. On essaie de trouver une porte d'entrée pour discuter avec eux et on s'y attache. Voilà, avec les familles aussi, on a eu beaucoup de liens. On partage aussi, on partage un petit peu les valises qu'on a apportées.
Et on arrive à garder sa place de fille alors qu'on prend en charge sa mère?
Moi, le fait de l'avoir placée, ça m'a redonné ma place de fille parce que je n'avais plus les gestes à faire de toilette, de change. Là, c'est vrai que c'est un moment qui est compliqué quand on doit accompagner sa maman la première fois qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un accident. Et puis finalement, quand on fait des gestes assez naturels et qu'on essaie d'occulter le côté dramatique et de se dire... Voilà, bon, bah, c'est un geste, on y arrive, on passe par là, on essaie d'en rigoler et finalement, ça passe beaucoup mieux.
Des projets également, absolument. Ça c'était important pour vous?
Alors, j'ai toujours essayé de l'emmener un maximum au restaurant, dans des dîners, etc. Puis après, elle s'est dégradée beaucoup physiquement, une perte de poids terrible, avec un corps aussi qui s'était énormément raidi, où on ne pouvait plus du tout la manipuler. Et lorsque c'était peut-être un an avant qu'elle disparaisse, je discute avec une aide-soignante avec qui on s'entendait beaucoup, avec qui elle avait noué des liens très forts. Et je dis à cette Nabila, qui était assez amusante, qui sortait un peu du cadre, qui était un peu fofolle, donc on riait beaucoup. Et je lui dis un jour, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé la ramener au bord de la mer. Et la petite m'ouvre ses grands yeux comme ça, et elle me dit, on part quand? Et je lui dis, attention, parce que moi, si... Vous me prenez au mot, on va le faire. Et donc, on l'a fait. On est parti une semaine, donc avec ma mère, qui était vraiment dans un état voilà, de dépendance totale, puisqu'elle ne marchait plus. Donc, on a bourré une voiture, on a loué le lit médicalisé, le fauteuil roulant. On a pris, hein, on est parti comme dans notre petit road trip. On a pris nos petites affaires et on est parti toutes les trois. Et en fait, c'est un voyage moi qui restera gravé dans ma mémoire parce qu'on a vécu des moments intenses de grâce et elle nous a donné beaucoup pendant cette semaine. Alors j'avais pris une petite caméra avec moi et j'ai fait quelques images. Et voilà, j'ai monté un petit clip pour vous montrer que même quand on arrive très très loin dans la maladie et quand la personne est très dégradée, on peut vivre des moments heureux. Voilà, on peut être malade d'Alzheimer et être heureux. Et c'est vraiment le message aujourd'hui que je veux faire passer pour dire à tous ceux qui vivent avec le poids sur les épaules en disant « il va y avoir que des catastrophes ». Oui, il y en aura, vous en aurez. On aura des moments difficiles, mais on va aussi avoir des moments merveilleux.
À quel moment vous décidez de raconter tout cela et de le partager avec le grand public? On voit derrière vous la couverture de votre livre, « Quand maman plantait des brosses à dents », donc on sait pourquoi vous avez choisi ce titre. À quel moment vous vous dites « je ne vais pas garder ça pour moi » ?
J'avais le projet parce qu'en fait, je faisais beaucoup rire mes amis. Voilà, et j'ai une amie journaliste qui m'a dit « c'est pas possible, il faut prendre des notes ». Alors j'avais déjà écrit des choses, etc. Puis voilà, en parlant... Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde de toucher. Voilà. Même après la sortie du livre, en discutant avec des amis, des proches, des gens de la famille, des gens qui sont plus concernés qu'on ne croit. Voilà. Les gens qui peuvent ouvrir aussi leur cœur et ouvrir leurs histoires. On se rend compte qu'il y a qu'il n'y a pas une famille qui est épargnée. C'est très, très rare. Donc voilà, cet ami journaliste m'avait pris un jour un rendez-vous avec mon éditeur et m'a dit bah, « maintenant, tu n'as plus le choix, il faut écrire ». Et je continue aujourd'hui, je suis en train de travailler sur l'adaptation, on aimerait en faire une adaptation cinématographique pour essayer de porter ce message encore plus loin.
Votre message, c'est aussi non à la culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui ressort de ces pages, c'est quelque chose que vous avez ressenti également quand vous avez rencontré vos lecteurs à la suite de la parution de ce livre. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos lecteurs ?
De dire, voilà, ça fait du bien aussi, de se dire, moi je tiens vraiment à déculpabiliser les gens. Ce que nous vivons est tellement difficile, tellement dur. C'est, voilà, en plus, quand on est enfant, on perd sa maman, son papa. Quand on est conjoint, on perd son amoureux, on perd son avenir, on perd tout ça. Et c'est quelque chose qui est con. Et c'est tellement difficile qu'il ne faut pas hésiter aussi à savoir passer la main. Et ce n'est pas une faiblesse de dire un jour, je n'y arrive plus, je ne suis plus capable. Personne n'est capable. Il n'y a rien de se marteler en disant, il faut absolument que je mène au bout, jamais je ne le placerai, j'ai fait la promesse d'eux, etc.
Il n'y a qu'avec moi qu'il est bien, etc. C'est vraiment des choses qu'on entend, hein, souvent.
C'est des choses qu'on entend. Il faut savoir aussi se dire, les choses ne sont plus possibles et ce n'est pas une faiblesse. C'est au contraire, c'est une force de savoir s'allier, d'aller chercher de l'aide pour la personne. Parce que, voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'héroïque en gardant H24 quelqu'un à la maison comme ça. En tout cas, moi, ça ne m'a pas paru possible et ça ne m'a pas paru être la bonne solution pour le bien-être de la personne. Parce que la vraie question, ce qu'il faut aussi se poser, c'est qu'est-ce qui est bon pour lui, pour l'aider, pour qu'il soit dans l'environnement le plus sécurisé, le plus stable. Voilà, avoir quelqu'un à la maison et lui hurler dessus toute la journée, c'est contre-productif. Savoir, en revanche, trouver la bonne équipe, être convaincu de toute façon qu'il n'y aura jamais de prise en charge parfaite. Ça n'existe pas. On aura toujours, il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer. Mais aujourd'hui, la culpabilité qu'il y a sur les épaules de l'aidant est immense parce qu'il y a aussi ce sacro-saint, je ne placerai pas, et tout le monde qui vient aussi vous donner des conseils, et moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Si vous faites des tours sur les réseaux sociaux, alors là, des leçons, vous allez en prendre. On peut avoir aussi, on rencontre des gens formidables, on a des groupes de parole qui sont formidables dans les groupes Facebook et sur les réseaux. Enfin voilà, moi je discute avec des gens, on a beaucoup d'échanges. Mais parfois, les leçons sont un petit peu dures à prendre dans les dents.
Et puis il n'y a pas deux histoires pareilles, il n'y a pas deux caractères pareils,
il n'y a pas deux familles pareilles. Comme il n'y a pas deux malades pareils. Voilà, ils ont tous, tout est lié aussi avec leurs histoires, leur vécu. On voit l'histoire du général, voilà, enfin... Ça fait bien partie. Là, j'ai vu récemment une danseuse sur, je pense que vous avez vu les images l'ancienne ballerine qui retrouve ses gestes.
Qui danse le lac des cygnes.
Moi, j'ai été absolument éblouie par ce moment-là, parce qu'elle retrouve ses gestes. Alors, il y a des gens qui disent c'est horrible, on ne peut pas regarder ça, c'est épouvantable, quelle déchéance. Chacun sa manière de voir le verre vide. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, c'est une danseuse hein, qui a mémorisé la danse des cygnes. Elle est assise dans son fauteuil et avec une grâce inouïe.
Absolument. Mais pourquoi elle a réussi à retrouver ça ? Parce qu'une personne a fait l'effort de lui mettre un Walkman sur la tête, de lui refaire écouter la musique, de lui faire... D'où l'appel à nouveau à la créativité. Dans le livre, je raconte des tas d'anecdotes là-dessus, de choses un peu différentes. Essayons de penser différemment.
Ce sera le lac des cygnes pour certaines, d'autres types de chansons françaises pour d'autres, ou des injonctions de paroles militaires pour d'autres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps de raconter cette histoire, parce que ce qui est formidable dans votre livre, c'est qu'on n'en ressort pas du tout plombé. Voilà, vous parlez de façon très simple et très naturelle de ce qui vous est arrivé, et à la fois, on aime votre maman à la fin du livre, hein, parce que c'est vrai qu'elle a, par le regard, par les échanges qu'elle réussit à maintenir et que vous réussissez à maintenir avec elle jusqu'au bout de sa vie, je crois. Voilà, il y a plein de belles choses qui se passent et ça donne envie de cultiver tous ces moments qu'on peut partager avec un proche.
Mais moi-même, on va dire maintenant presque 15 ans après, je n'ai pas de poids de... Je suis évidemment la tristesse et le chagrin d'une fille qui a perdu sa maman, mais je suis dans le... où je cultive les bons moments, j'oublie ce qu'on a, les mauvais moments. Écrire le livre m'a obligée à me replonger dedans. Bon, il a bien fallu, je le fais pour vous.